Eh bien, bonjour à tous et bonjour à mon invité. Bienvenue sur Fréquence Mistral. Mon invité aujourd'hui, c'est une jeune femme de 29 ans. C'est Stéphanie Carreras. Bonjour.
Bonjour Odile.
Merci d'être venue jusqu'à notre studio pour nous parler d'un sujet qui touche énormément de femmes, l'endométriose. On va voir avec vous tout au long de cette heure ce qu'est l'endométriose, comment on voit les symptômes, si c'est possible de s'en prévenir ou d'en guérir. Et puis on parlera bien sûr aussi de votre témoignage, puisque malheureusement vous avez été diagnostiquée il y a très peu de temps. Et puis on parlera aussi de cette journée mondiale sur l'endométriose. C'est le 13 mars prochain. On en parle dans un instant. Stéphanie Carreras, on va parler de l'endométriose. D'abord, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'endométriose est une maladie gynécologique qui touche 180 millions de femmes dans le monde. Dans l'utérus, on a une muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre. Et cette maladie, c'est cet endomètre qui va réussir à passer dans l'abdomen, donc en dehors de l'utérus, se développer sur les parois des organes de l'abdomen et en fait enflammer les parois des autres organes et coller les organes entre eux au fur et à mesure. Donc l'endomètre est sous l'influence des hormones féminines, donc tous les mois, au moment des menstruations, quelques jours avant, cette muqueuse va s'épaissir, donc ces bouts d'endomètre qui sont dans l'abdomen vont aussi s'épaissir en provoquant les douleurs du coup liées à l'inflammation des organes. Et cette muqueuse va ensuite saigner au moment des règles. Donc lorsqu'elle est dans l'utérus, donc bien placée, le sang va pouvoir s'évacuer. Et lorsqu'elle est dans l'abdomen, elle ne peut pas. Ce sang ne peut pas s'évacuer et va provoquer de terribles douleurs. Et le système immunitaire va essayer de se débarrasser de ce sang en créant des kystes, des adhérences et entre les organes, des nodules, provoquer du coup énormément de douleurs qui vont s'amplifier tous les mois à chaque menstruation.
Donc douleur,
c'est le premier symptôme.
C'est le
premier symptôme.
On verra ce que ça a comme conséquence au fur et à mesure de l'émission. Vous apporterez votre témoignage, puisque en fait vous parlez d'un nombre incroyable de personnes atteintes. Combien le nombre dans le monde ?
180 millions de femmes.
180 millions de femmes dans le monde, c'est énorme. Oui. De femmes qui sont diagnostiquées, mais il y en a plein d'autres qui s'ignorent.
Certainement. Après, je peux pas dire que j'ai les chiffres, bien évidemment, mais voilà, c'est 180 millions de femmes diagnostiquées. Il faut savoir qu'il faut entre 6 et 10 ans pour avoir le diagnostic. Autant de temps pour avoir le diagnostic fait que certainement il y a des femmes qui sont encore en attente d'être diagnostiquées et donc que le nombre peut augmenter.
Au niveau de l'âge des femmes diagnostiquées, il n'y a pas de règle. Est-ce que c'est plutôt jeune ?
Alors il n'y a pas vraiment de règle non sur ça, mais il faut savoir que l'endométriose, si on doit être atteinte d'endométriose, de toute façon, ça commencera très certainement à partir des premières règles. Maintenant, certaines vont avoir à partir de leurs premières règles beaucoup de douleurs et d'autres, ça va mettre un petit peu plus de temps. Donc moi, c'est mon cas, entre mes premières règles et les vraies grosses douleurs pendant les règles, il s'est passé quelques années, même si c'est après aller crescendo. Donc il n'y a pas d'âge pour être diagnostiqué. Il y a, je pense, surtout besoin de médecins à l'écoute. Et le fait de se plaindre d'avoir des règles très douloureuses n'est pas normal. C'est vraiment le message aussi de ça, c'est ce n'est pas normal d'avoir mal. Ce n'est pas normal, quand on a ses règles, de ne pas pouvoir se lever de son lit, d'avoir des nausées, de même vomir, de s'évanouir de douleur. Que les antalgiques classiques ne calment pas les douleurs, c'est pas normal. Voilà.
Vous avez été réglée très jeune ?
J'ai été réglée à 12 ans.
12 ans, ce qui est assez jeune.
Assez jeune, mais...
Est-ce que les douleurs ont été présentes tout de suite ?
Non, moi je dirais que les premières années, jusqu'à l'âge de 19 ans, j'avais une gêne, oui. J'étais pas forcément bien pendant mes règles, mais j'ai pas souvenir d'avoir souffert comme j'ai pu souffrir après l'âge de 19 ans. Il y a plusieurs symptômes qui sont associés à ça, comme les douleurs pendant les rapports sexuels. Il y a des douleurs qui sont présentes et on se dit, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal ? Voilà, moi, mes premiers symptômes, ça a été ça, des rapports douloureux et des règles très douloureuses à partir de l'âge de 19-20 ans.
Vous parliez de la prise de la pilule à 17 ans.
Oui.
Est-ce que ça peut avoir un lien ? Est-ce que ça a enlevé de la douleur ?
Actuellement, comme il n'existe pas de traitement, puisque c'est une maladie qu'on ne sait pas soigner, on peut amoindrir les douleurs grâce à pas mal de choses, entre autres les traitements hormonaux comme les pilules en continu. Mais il existe aussi des ménopauses artificielles, enfin, ça on reviendra peut-être dessus. En tout cas, en ce qui concerne la pilule, le fait d'être sous ces hormones permet de bloquer un petit peu la fabrication d'hormones par les ovaires et donc de calmer les douleurs. Mais pour cela, il faut la prendre en continu. Donc le fait de ne pas la prendre en continu, malheureusement, les règles sont là quand même tous les mois. Donc ça n'a pas aidé, je pense, pour les douleurs.
Et alors, à partir de quand vous vous êtes rendu compte que c'était l'endométriose ? Comment ça a été diagnostiqué ?
Après plusieurs mois, plusieurs années où tous les mois, c'était de plus en plus terrible d'avoir les règles jusqu'à avoir des angoisses à l'idée de les avoir. À cela s'ajoutaient beaucoup d'autres symptômes en parallèle que je n'associais pas forcément à mes règles. Et maintenant, je le sais avec le recul, c'était un tort puisque tout était lié. J'ai commencé à avoir pas mal de troubles digestifs, entre autres des constipations qui pouvaient être très longues, donc très douloureuses aussi. S'en suivaient des diarrhées qui pouvaient être longues aussi. Des douleurs quasi permanentes, c'est-à-dire qu'elles n'étaient plus seulement au moment des règles, mais en permanence. J'avais des points douloureux dans le ventre, des moments où je ne pouvais pas m'asseoir à plat sur une chaise parce que c'était des douleurs qui explosaient dans le bas-ventre si je ne prenais pas garde à faire attention. Me relever d'une chaise aussi, ça me faisait mal.
Qu'est-ce que se dit l'entourage à ce moment-là ou qu'est-ce que vous vous êtes dit vous-même ? Est-ce que c'est, on peut associer ça à du stress, ou tu t'écoutes trop ? Ou comment a réagi l'entourage proche, la famille, le compagnon ?
Alors, on va dire que la famille a été bien sûr très présente et m'a soutenue et m'a toujours cru. Et ça, je pense que c'est quand même une chance parce que malheureusement, beaucoup de femmes atteintes d'endométriose, on ne les croit pas. Enfin, on pense qu'elles exagèrent un peu leur douleur. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir un entourage proche qui ne pensait pas que je fabulais. Ça a été quand même très important aussi pour moi. Maintenant, n'étant pas médecin ni les uns ni les autres, c'était assez difficile de dire de quoi il pouvait s'agir. Donc, dans ces cas-là, on se tourne effectivement vers ces médecins, donc médecins généralistes, gynécologues, on se plaint. On dit, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai mal, je ne suis pas bien, j'ai besoin d'aide. Et là, ça part un petit peu dans tous les sens parce que, au généraliste, je parlais de mes problèmes de constipation et de diarrhée. Donc, quand j'étais constipée, je prenais des laxatifs et quand j'avais des diarrhées, je prenais l'inverse. Mmh. Pour les douleurs des échos qui ne révélaient rien à ce moment-là. Et ensuite, j'allais voir mon gynéco parce qu'effectivement, pendant les règles, c'était quelque chose d'insupportable. Et là, comme beaucoup de femmes atteintes d'endométriose, ce sont des discours... Un gynécologue m'a dit « c'est la condition féminine, c'est normal d'avoir mal, mademoiselle ». Donc ça, quand on l'entend, on se dit « bon, alors effectivement, c'est peut-être moi qui supporte moins bien que les autres ». Si ça se trouve, toutes les femmes ont mal de la même façon, mais moi, je le supporte moins bien.
En même temps, en allant jusqu'à perdre connaissance, c'est quand même pas très courant.
Ah non, c'est pas courant, mais c'est pas quelque chose qui a alerté, en tout cas à ce moment-là, les gynécologues que j'ai pu consulter.
Alors les premiers antidouleurs que vous avez pris, comment vous avez remédié, si c'est possible d'y remédier, à ce moment-là, vous tordre de douleur,
à prendre à très forte dose certains anti-inflammatoires. pour essayer d'arriver à enrayer la douleur. Ça pouvait marcher au bout d'un certain temps. Pendant les périodes de règles, j'étais incapable de rester droite. Quand les douleurs sont devenues très fortes et vraiment ingérables, je travaillais à mon compte.
Et alors, on rappelle que vous êtes esthéticienne, un métier
où on est debout.
Où on est debout et où on s'occupe, on prend bien soin des autres femmes.
Ça a été difficile et en fait, voilà, pendant cette période où je travaillais à mon compte, je calculais donc les premiers, deuxième, voire troisième jours de mes règles, eh bien, je fermais mon entreprise.
Ah oui, carrément.
Parce que je savais que j'allais pas pouvoir y aller ou en tout cas je faisais en sorte d'avoir le moins de rendez-vous possible, ce qui est quand même aussi un comble quand on travaille à son compte de pas pouvoir travailler comme on le veut. Ça a handicapé aussi voilà ma vie professionnelle. C'était effectivement simple parce que j'étais à mon compte et donc je pouvais le décider. Maintenant, quand on est salarié, et je sais que d'autres femmes vivent les mêmes choses, aimeraient pouvoir s'arrêter sur ces périodes-là qui sont si difficiles. Et malheureusement, en professionnel, c'est pas forcément bien vu et pas forcément compris.
Et pas reconnu non plus.
Et pas reconnu, puisque quand on parle d'endométriose, bon, c'est encore vraiment peu connu.
Donc c'est des douleurs atroces pendant la période des règles, un peu avant les règles, un peu après les règles, pendant,
oui.
Combien de jours à devoir affronter ces douleurs?
Au départ, je dirais que c'était à peu près 3 jours par mois, puis ça a augmenté à 5, puis 10, et puis jusqu'à venir sur les 2 dernières années, donc avant l'opération, puisque j'ai été opérée au mois de septembre.
Alors comment on opère ça?
L'objectif, c'est de soulager les douleurs. Pour ma part, les traitements hormonaux ne faisaient plus effet. Puisque après le diagnostic, une fois que j'ai pu trouver un gynécologue spécialiste de la maladie, on a tenté des traitements hormonaux en continu, qui sont lourds aussi en effet secondaire. Et il s'est révélé qu'au bout de quelques mois, les douleurs revenaient tout aussi fortes, même en absence de règles. Donc là, il a fallu prendre la décision, puisqu'il y a on a très peu de champ d'action puisqu'il n'y a pas de traitement réel. Et du coup, l'opération était à ce moment-là nécessaire. On décolle les organes qui ont été collés entre eux. Pour ma part, pour parler de mes atteintes, il y avait l'utérus qui était collé aux intestins. Il y avait les 2 ligaments utérosacrés qui étaient pris. Il y avait un nodule dans le cul-de-sac de Douglas, donc c'est une petite poche qui est à l'arrière de l'utérus. Il y avait un nodule dans le vagin de 3 cm sur 2, ce qui est assez gros. Et ensuite, des atteintes autour de la vessie, donc un nodule sur un des nerfs de la vessie et un nodule sur une des 2 uretères, qui provoquaient toutes ces douleurs et ces années de souffrance et d'incompréhension de ce qui se passait.
Donc ça, c'était à quel moment vous vous êtes fait opérer?
Je me suis fait opérer au mois de septembre.
Septembre 2013.
Septembre 2013, oui.
Et depuis, comment ça se passe pour vous?
Ça va mieux.
Ça va mieux. Moins de douleurs,
oui.
Mais toujours quand même un peu.
Je vais vraiment bien. J'ai plus de douleurs. On va dire que tous les troubles qui étaient associés ont disparu. Donc les troubles du transit, les troubles urinaires aussi, puisque j'avais aussi des troubles de ce côté-là. Voilà, je suis bien. Je suis encore fatiguée, je le sens, mais je pense que c'est la convalescence aussi qui veut ça. Et je sais que ça sera long, j'ai été prévenue aussi. Mais par contre, de ne plus sentir cette pesanteur et ces douleurs que j'avais avant l'opération, c'est quand même une délivrance. Même si je sais que je n'en suis pas guérie, même si je sais que le combat ne fait que commencer.
Donc d'avoir enlevé ces différents kystes, est-ce que ça peut se reformer des kystes encore à nouveau?
Oui. Le simple fait de continuer à fabriquer des hormones fait que l'endométriose peut de nouveau se propager dans l'organisme.
Vous continuez à prendre la pilule?
Je prends la pilule en continu. C'est ce qui a été décidé avec le chirurgien. Donc une pilule contraceptive classique que je
Parce
prends
Parce que maintenant,
en continu.
On a fait des progrès au niveau des dosages. C'est beaucoup moins fort que ça l'était il y a quelques années, la pilule. Est-ce qu'il vous faut une pilule forte?
Il faut surtout trouver la pilule qui va faire en sorte d'arrêter les saignements. On ne réagit pas toutes de la même façon face aux mêmes prescriptions de pilules. Donc pour certaines, une pilule classique ne leur conviendra pas, n'arrêtera pas les saignements et donc n'arrêtera pas la propagation de l'endométriose et donc pas les douleurs. Pour d'autres, ça marchera. Donc en fait, il faut essayer et avoir surtout des médecins, gynécologues et chirurgiens qui sont des spécialistes connaissent bien le sujet pour arriver à avoir une bonne écoute et à pouvoir dire au bout de quelques temps si ça ne convient pas, non, on change, on tente autre chose parce que ça ne me va pas.
Donc vous êtes relativement soulagée depuis oui. cette opération en septembre 2013. Oui. Est-ce que ça peut avoir des conséquences, cette opération peut avoir des conséquences négatives ?
Je pense que si elle est mal exécutée, très certainement, le fait de toucher comme ça à la fois au système digestif, gynécologique et urinaire, je pense qu'effectivement, il faut que ce soit fait par des mains expertes. En tout cas, pour ma part, voilà, tout s'est bien passé. J'étais surtout entre de bonnes mains, donc un spécialiste de l'endométriose.
On a le droit de citer la ville ?
De Marseille.
De Marseille, d'accord. On va faire une toute petite pause musicale et puis on reviendra sur l'endométriose avec vous Stéphanie Carreras en direct de notre studio Fréquence Mistral. Vous êtes sur Fréquence Mistral et on retrouve mon invitée, Stéphanie Carreras, jeune femme esthéticienne de 29 ans, atteinte malheureusement par la maladie l'endométriose, dont on a vu en quoi consistait cette maladie. On va y revenir tout au long de cette émission. Donc là, actuellement, vous êtes opérée depuis quelques mois. Ça va mieux, on vous a enlevé des kystes un peu partout, sur la vessie, l'utérus. Et on va voir comment vous avez été diagnostiquée. Vous avez souffert de nombreuses années depuis à chaque moment des règles. On verra aussi si ça a eu des conséquences. Vous parliez des rapports douloureux avec votre compagnon. On va voir aussi comment vous êtes sortie de nerveusement, parce que la souffrance est éreintante, surtout quand elle dure plusieurs jours. C'est fatigant, c'est nerveusement. J'imagine que ça a dû vous atteindre.
C'est épuisant de souffrir tous les mois, de ne pas comprendre ce qui nous arrive. Effectivement, le fait d'avoir des rapports douloureux et d'éliminer au fur et à mesure les rapports, de les espacer, parce que quand c'est pas agréable, ça vaut pas le coup. Mmh. Et en face, d'avoir un partenaire qui se pose la question aussi de pourquoi, sauf qu'à ce moment-là, n'étant pas diagnostiqué, c'est assez difficile de communiquer là-dessus. On se retrouve un peu seul en disant « bon, j'ai mal, je suis pas comme les autres, j'en parle pas forcément non plus autour de moi de ça, parce que c'est très intime ». C'est difficile de vivre ça au quotidien et une fois que le diagnostic est posé, c'est vrai que le premier sentiment, c'est le soulagement. Bizarrement.
Oui, le diagnostic peut faire mal puisqu'on sait, on met un nom sur quelque chose, sur une souffrance.
D'avoir enfin une réponse et de savoir qu'on avait raison, quoi, que le ressenti profond de se dire il y a quelque chose qui ne va pas était réel et qu'en plus, c'est une maladie qui a un nom. Après, par contre, une fois qu'on se rend compte justement que c'est une maladie qui est pas bien connue, qui n'existe pas de traitement, qu'on n'en guérit pas, que
c'est aussi très inquiétant,
qu'il y a un gros point d'interrogation qui se pose sur la fertilité aussi, là, on se sent tout d'un coup dans sa vie de femme un peu maltraitée, oui. parce que on est obligé de faire avec, c'est dans sa chair et c'est là. Et ça restera là. quoi qu'il se passe.
Est-ce qu'on vous a dit que c'était vous risquiez de ne jamais avoir d'enfant ou il n'y a rien de sûr c'est...
La phrase de mon gynécologue qui est donc quelqu'un de compétent pour me suivre pour cette endométriose m'a dit très brutalement et en même temps je pense qu'il n'y avait pas de façon douce de le dire, m'a dit voilà, 50% des femmes atteintes d'endométriose arrivent à avoir des enfants. Les 50 autres % n'y arrivent pas, en tout cas pas naturellement. Sur ces 50%, il y en a environ 25 qui arriveront un jour à concevoir avec la procréation médicalement assistée. Et il y a toujours 25% qui resteront sur le carreau. Donc c'est très dur. On sort, on pleure beaucoup. Parce que voilà, ça remet tous les projets de vie aussi en question. Et on se dit, et est-ce que moi je vais faire partie de quel pourcentage, quoi, finalement. Donc voilà, c'est dur à entendre, même si au départ on était soulagés du diagnostic, la suite c'est de comprendre en fait quelle est l'ampleur du combat. Tant que je n'aurai pas quelqu'un dans ma vie pour tenter cette aventure-là, je ne le saurai pas. Après, avec justement mon gynécologue et mon chirurgien, ce qui est ressorti, c'est que bon... En plus de l'endométriose, j'ai une adénomyose. Donc l'adénomyose, c'est de l'endométriose dans le muscle utérin. Donc en plus de tout le reste, il y en a aussi dans le muscle utérin. C'est une forme qui est diffuse, ce qui veut dire qu'elle n'est pas opérable. Le seul moyen de ne pas avoir d'adénomyose, ce serait d'enlever l'utérus. Ce qui est, les médecins, tant qu'on n'a pas le bon âge, ou en tout cas déjà essayé d'avoir des enfants, sont complètement contre le fait de l'enlever. Et donc, il y a cette adénomyose en plus qui peut faire craindre de ne pas pouvoir avoir un endomètre suffisamment de bonne qualité pour accueillir un œuf, donc qui empêcherait la nidation d'un œuf pour concevoir. Bah, et puis après, il y a des tas de choses qui vont en fait interagir sur la fertilité. Le fait en fait d'avoir des inflammations répétées, puisque pour tenter d'avoir un enfant, il faut arrêter du coup les traitements. Sauf que quand on arrête les traitements et que les règles reviennent, il y a de grandes chances de voir arriver l'endométriose au galop, donc et se propager de nouveau. Donc les inflammations vont freiner la possibilité de tomber enceinte. Et l'adénomyose fait que la muqueuse utérine est de mauvaise qualité et peut effectivement empêcher l'œuf de s'accrocher. En tout cas, sur le cas de la fertilité, bon nombre de femmes atteintes d'endométriose sont dans un combat quotidien pour arriver à espérer leur petit miracle.
Un combat douloureux. Vous avez appris beaucoup depuis cette maladie, puisque vous avez fait des recherches, bien sûr, pour en savoir plus. Et maintenant, vous êtes presque aussi calé qu'un médecin. c'est difficile de parler de ça avec d'autres femmes. Vous n'avez pas eu de... Est-ce qu'il y a des groupes de parole? Vous me parliez d'une fédération qui existe sur l'endométriose.
Du mouvement Liliash contre l'endométriose qui pour moi, ça a été, c'est là où j'ai trouvé les réponses, le soutien et le réconfort dont j'avais besoin à ce moment-là. Parce qu'effectivement, comme je disais, une fois que le nom est posé et qu'on se rencontre en lisant des témoignages sur Internet de ce que ça peut provoquer dans la vie de tous les jours comme handicap, comme question, comme angoisse, voilà, on se retrouve un peu seul face à tout ça. C'est difficile aussi d'en parler avec des personnes qui ne le vivent pas. Peut-être aussi par peur d'embêter ou par peur de pas avoir peut-être l'oreille qu'on attend à ce moment-là. Et là, voilà, j'ai eu connaissance de ce mouvement Liliash contre l'endométriose. Donc, bien sûr, je me suis ruée sur l'ordinateur. J'ai trouvé la page Facebook. Et il y avait une possibilité de participer à un groupe de parole. Et là, j'ai trouvé des réponses et là, j'ai compris que non seulement j'étais pas seule, mais qu'on était 180 millions, en fait, dans le monde. Et que c'était pas possible, c'était plus possible de laisser cette situation comme ça. J'y ai trouvé, voilà, des réponses. Du réconfort, mais aussi l'envie de réconforter les autres quand c'était possible. Et avec ça, voilà, d'avancer et d'avoir des projets pour commencer à vraiment faire connaître la maladie et se dire Voilà, on ne va pas rester comme ça.
Alors, on ne connaît pas, vous le dites, on ne connaît pas vraiment de guérison possible. Et est-ce que si c'est diagnostiqué dès les premières règles, une jeune fille vraiment à peine réglée qui aurait atrocement mal au ventre, est-ce qu'on peut faire quelque chose à ce moment-là ?
Je pense qu'à ce moment-là, voilà, avec des spécialistes, il y a la possibilité de mettre en place rapidement des traitements en continu qui vont en fait bloquer les règles et donc bloquer l'évolution. Après, c'est à voir aussi, enfin, avec les médecins, qui, voilà, ce qui est possible de faire même très jeune. C'est vrai que la solution, je l'ai pas. J'aimerais beaucoup, mais je pense qu'il y a des choses à faire sur la prise en charge pour justement pas perdre autant de temps. Si ça a 10 ans pour un diagnostic, non. On est en 2014, c'est une maladie qui est connue depuis 1860. C'est pas possible. Voilà, c'est ça, ça doit s'arrêter, c'est maintenant. Maintenant, on dit stop, on ne peut plus.
Qu'est-ce qui doit s'arrêter ?
D'avoir des diagnostics qui prennent trop de temps avant d'être faits, d'avoir une mauvaise prise en charge, des médecins qui sont tellement peu au courant, parce que peu formés aussi, de se faire entendre dire que ce soit, voilà, c'est la condition féminine, c'est normal d'avoir mal, ou vous devez être un petit peu douillette, vous vous plaignez beaucoup, ou continuez à prendre vos anti-inflammatoires si ça vous fait du bien. Et puis c'est tout. Enfin, c'est la seule chose qui est proposée. Ou alors, on va changer de pilule. Bon, on change de pilule, ça fait pas mieux, mais c'est pas grave. Il y a pas plus de réponse que ça. Je pense que c'est en plus un problème qu'on vit toutes quand on essaye, voilà, quand on est avec ses douleurs et qu'on sait pas ce qui nous arrive.
Est-ce qu'il y a une partie qui peut être héréditaire?
Il y a des pistes sur quelque chose qui serait génétique. Maintenant, les médecins disent qu'il y a des terrains, il y a des familles où on retrouve plusieurs membres atteints d'endométriose. Maintenant, il n'y a rien d'avéré. Voilà. Parce que justement, comme c'est une maladie finalement qui intéresse peu et qui est mal connue, les personnes qui s'y intéressent manquent aussi de moyens pour faire des recherches. On a le devoir, et c'est aussi pour ça que jeudi prochain à Paris, il y a cette journée mondiale contre l'endométriose. Il faut qu'on lutte tout ensemble pour arriver à faire changer les choses.
On va venir tout à l'heure aux différents types d'endométriose et on va encore revenir au moment du diagnostic, puisque ça, c'est quand même important de le savoir. Comment vous avez su que c'était ça? Donc, vous avez pu enfin être soulagée en sachant que c'était ça dont vous souffriez?
Beaucoup de douleurs, donc forcément des examens médicaux aussi qui se suivent, donc des échos. Et puis un jour un scanner, et en fait à ce scanner, on voit un kyste sur un ovaire. Et là on me propose une pilule fortement dosée pour 3 mois et un contrôle à faire 3 mois après. Donc quand il s'agit d'un kyste fonctionnel, il part tout seul au bout de 3 mois, ça arrive. C'est pas dangereux, ça peut être douloureux. Et en fait, 3 mois après, au moment de l'examen, le radiologue allait me faire l'écho. Et avant qu'il démarre, je lui ai dit, voilà, je suis certaine d'avoir encore ce kyste parce que j'ai mal tout le temps. J'ai mal tout le temps, sans interruption, jour, nuit, j'ai mal. Le sein, je sais qu'il y a quelque chose. Donc il procède à l'examen et il reste silencieux un moment et il me dit « Je suis désolée, mais il n'y a rien. Le kyste a disparu. » Et là, je me suis effondrée. J'ai pleuré. J'étais en colère. Je ne comprenais pas pourquoi on me disait encore une fois qu'il n'y a rien, alors qu'au moment même où il me faisait l'examen, où j'étais en face de lui, j'avais mal. Et je pouvais même mettre le doigt sur mon ventre exactement aux endroits qui étaient douloureux. Et là, il m'a écouté. Il s'est assis au bord de la table et il m'a dit « Calme-toi et explique-moi ». Et là, je disais « J'ai mal tout le temps, je peux plus, ça fait trop longtemps que ça dure, j'ai quelque chose, j'en suis sûre. Je peux pas avoir mal comme ça et qu'il n'y ait rien, c'est pas possible. » Donc là, il m'a posé beaucoup de questions sur tout un tas de domaines qui n'étaient pas forcément des problèmes gynéco. Hein. Et au fur et à mesure que je lui répondais... Ben, il faisait du lien en fait avec tout ce que je pouvais avoir, tous les problèmes de transit, tous les problèmes urinaires, les douleurs pendant les rapports, la fatigue qui était omniprésente et ces douleurs qui partaient pas. Et c'est lui la première fois qui m'a dit le mot endométriose. Il m'a dit, on va maintenant faire une IRM et on verra.
Est-ce qu'à ce moment-là, ce mot endométriose, ça vous...
À ce moment-là, ça ne me dit absolument rien. Ouais. Ça ne me... Je sais pas si c'est grave, pas grave, s'il suffit de comprimer pour la soigner ou non, je sais pas. Et déjà, en même temps, je me dis, bon, si lui pense à quelque chose, c'est qu'effectivement, ça ressemble à une pathologie. Donc, on verra bien. Et là, je passe l'IRM. Et au moment de l'interprétation des résultats, donc un autre radiologue qui n'était pas celui qui m'avait fait passer, qui m'en avait parlé, me dit qu'effectivement, il y a une endométriose péritonéale profonde avec plusieurs atteintes. Donc voilà, on arrive, on a le mot, l'IRM dans la main, et on se dit, ok, bon ben voilà.
Maintenant je vais me renseigner. Maintenant je vais voir ce qui est possible de faire.
Voilà. Et la seule chose que ce radiologue à ce moment-là m'a dit, c'est trouver un bon gynécologue. Donc oui, ça a été la quête après, voilà, de trouver la bonne adresse.
Et vous avez quel âge à ce moment-là ?
À ce moment-là, j'ai 27 ans. Mmh. Donc pareil, hein, plein de questions, plein d'angoisses. Qu'est-ce que je vais devenir ? C'est quoi exactement ? Et puis on en apprend au fur et à mesure, effectivement, sur Internet, en se rapprochant, voilà, de groupes de parole aussi, en regardant sur des schémas. Et puis en même temps, en parallèle, il y a les traitements hormonaux qu'on a mis en place pour essayer d'atténuer les douleurs. Les douleurs sont atténuées un temps. Mais les saignements reviennent, les douleurs aussi, plus les effets secondaires d'un traitement progestatif pris en continu, donc 7 kilos pris en 3 mois, une irritabilité, une colère qui passe pas. Et voilà, et on sent que finalement on est obligé de se battre quand même encore tous les jours. Et puis il y a cette fatigue, l'épuisement, qui je pense est autant physique que psychologique, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va devenir. Et à ce moment-là, mon gynécologue, lui, me dit qu'il va falloir penser à une opération. Ça fait très peur. Et il me dit, par contre, c'est au-delà de mes compétences. C'est-à-dire que moi, je peux vous suivre, il n'y a pas de souci. Je m'y connais bien sur ce sujet. Mais par contre, cette opération, elle est trop importante. Donc, je vais vous diriger vers un confrère à Marseille. Et là, on arrive chez le chirurgien en disant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? En quelques examens très simples que n'importe quel gynécologue est apte à faire, il arrive à déceler à peu près toutes les atteintes. Il regarde l'IRM et me dit « l'IRM a été mal interprété. Il y a en fait plus d'atteintes que ce qui est décrit. Donc maintenant, on va agir. » Et là, ça s'enchaîne sur les examens préopératoires, savoir exactement il y a quoi et où. Mmh. Et on arrive à l'opération au mois de septembre, qui était quand même une opération lourde.
Alors oui, est-ce que vous avez été anesthésiée complètement ?
Oui, c'était sous anesthésie générale, une opération...
Combien d'heures ?
De 3 heures.
3 heures.
Mmh. On n'est pas bien après. En plus, moi j'ai eu la malchance de faire quelques complications après, mais qui n'étaient pas forcément dues à l'opération elle-même. C'est simplement que on réagit toutes différemment. Et par contre, c'est vrai qu'il faut du repos, du repos, du repos, du repos après. Parce qu'il n'y a que ça finalement qui va permettre d'aller mieux. Mais voilà, une fois l'opération passée, on se dit c'est une bonne chose de faite malgré tout. Et de commencer à ressentir les bénéfices de l'opération quelques mois après, c'est bon aussi. Et maintenant, je peux dire que oui, ça va mieux. J'ai moins de douleurs. Mais je sais que il faut que je garde dans un coin de ma tête qu'il faut que j'en profite un maximum tant que ça va bien. Et que peut-être... il y aura un moment donné où ça ira moins bien, mais maintenant j'ai les bonnes adresses. Et je sais à qui m'adresser. Les spécialistes qui me suivent sont là et seront là même plus tard.
Est-ce qu'on peut espérer, avec le mental, avec des médecines parallèles, si je peux employer ça comme vocabulaire, un peu comme dans l'hypnose,
Y a beaucoup de
essayer de se travailler son corps mentalement.
Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Alors, Comme quoi la sophrologie peut aider, l'ostéopathie aussi.
Le magnétisme aussi ou...
Ça, j'en ai moins entendu parler. Mais après, je pense que de toute façon, à partir du moment où on veut vraiment soulager ses douleurs, de toute façon, prête à tout essayer pour aller bien, pour aller mieux.
Donc, est-ce que vous étiez de tempérament plutôt nerveuse enfant? Est-ce qu'il y a un lien avec...
Normalement, il n'y a pas de lien.
Enfin, de stress important.
C'est pas forcément quelque chose voilà, qui... comme ce serait plutôt quelque chose qui mettrait en cause un gène, il n'y a pas de prépondérance voilà, sur un état au départ et les symptômes qui suivent ensuite.
Ni de type de personnalité. Enfin, si on fait une enquête sur les types de femmes qui sont atteintes, il n'y a pas de terrain.
Après, il y a quelque chose qui est dit aussi par les médecins. C'est souvent... Il y a beaucoup de femmes atteintes d'endométriose qui sont atteintes d'endométriose et qui développent aussi des maladies inflammatoires chroniques. Donc, il y a une piste aussi d'avoir peut-être un problème au départ sur du système immunitaire. Mais là encore, toutes les études et recherches sont à faire, n'ont pas encore été faites. Et le combat, il est là. Il est d'arriver à ça et de faire suffisamment connaître et parler de l'endométriose pour arriver arriver à ces enquêtes et à chercher tout ça.
Parce qu'on ne peut pas dire que vous ayez un mode de vie déjanté. Vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, vous êtes faites plutôt attention à votre
hygiène de vie. Bien sûr. Après, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait un tempérament particulier pour en être atteinte, non.
On va faire encore une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après pour continuer avec vous, Stéphanie Carreras, à parler de l'endométriose qui est encore assez mal connue.
Thank you.
Vous êtes sur Fréquence Mistral et toujours en compagnie de Stéphanie Carreras qui nous parle de l'endométriose. On va rappeler encore pour les auditeurs qui prendraient en cours cette émission ce qu'on appelle l'endométriose qui touche quand même 180 millions de femmes dans le monde.
Voilà, alors l'endométriose, donc c'est la propagation de muqueuse utérine en dehors de l'utérus qui va se développer sur les parois d'organes dans l'abdomen. Et ensuite se coller à ses organes et sous l'influence des hormones, saigner tous les mois au moment des règles. Le sang ne s'échappant pas va provoquer des inflammations sur des autres organes et beaucoup de douleurs. Et le système immunitaire va essayer de faire en sorte que ce sang ne reste pas là puisqu'il n'a rien à y faire. Et en fabriquant du tissu cicatriciel, ça va provoquer des kystes, des nodules et des adhérences entre les organes et du coup provoquer les douleurs liées à l'endométriose.
Alors on va voir qu'il y a plusieurs types d'endométriose. Vous aviez parlé tout à l'heure de
l'endométriose péritonéale profonde.
Voilà, c'est celle qui vous a atteinte. Et l'adénose,
on a parlé. L'adénomyose.
L'adénomyose.
Qui touche en fait le muscle utérin lui-même.
Qui fait partie de l'endométriose.
C'est de l'endométriose à l'intérieur de l'utérus. À l'intérieur du muscle utérin. Donc c'est exactement le même principe, hein, c'est-à-dire ce sont des petits nodules qui sont dans le muscle utérin et qui vont saigner de la même façon que dans le reste de l'abdomen et qui exactement de la même façon, comme c'est dans le muscle, n'auront pas forcément de porte de sortie pour évacuer le sang. C'est souvent associé, pas toutes les femmes atteintes d'endométriose ont de l'adénomyose, mais beaucoup. Voilà.
Alors, quels sont les autres types d'endométriose qui existent ?
Il existe aussi l'endométriose des ovaires. Donc, en fait, ce sont des kystes sur les ovaires, ce qu'on appelle des endométriums ovariens. C'est une autre forme d'endométriose. Ça ne veut pas dire que les femmes atteintes d'endométriose profonde n'auront pas forcément d'endométriose ovarienne. Et inversement, les femmes atteintes d'endométriose ovarienne, ça ne veut pas dire qu'elles n'auront que cette forme-là et pas ailleurs. Mais il est possible, effectivement, qu'il n'y ait des atteintes qu'aux ovaires. Ce qui pose aussi...
problème aussi ovaires, au niveau de la fertilité.
Au niveau de la fertilité, exactement.
Encore que s'il n'y a qu'un ovaire qui est touché, on peut encore espérer...
En sauver, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et là aussi, ça provoque de toute façon le même type de problème, les douleurs, avec des risques que ces kystes puissent éclater et provoquer, là encore, de gros problèmes de santé. Le problème de la fertilité, c'est vrai que c'est... Ça fait partie intégrante de la maladie de l'endométriose. Enfin, on se pose la question, on sait que ça joue sur la fertilité et du coup bah forcément sur la vie de couple. Et ça a des répercussions en fait sur toute la vie de toutes ces femmes-là, que ce soit professionnelle, amicale, familiale, ça répercute forcément. Et dans une vie de couple, effectivement, la question de est-ce qu'on arrivera à avoir un enfant ensemble ou pas, c'est certainement très très douloureux.
Donc ça se situe dans l'utérus, le vagin, ça peut pas être...
Ça peut aller absolument partout.
Est-ce qu'un homme peut être touché d'endométriose ?
Je pense pas, normalement n'ayant pas d'utérus. Après, par contre, il est vrai qu'il y a aussi, des endométrioses qui vont se développer bien au-delà des organes du petit bassin ou des ovaires. Il existe des endométrioses pulmonaires qui vont, pour celles que je connais, entre guillemets, provoquer des pneumothorax. Pareil, là aussi, il faut aussi être forte pour arriver à obtenir un diagnostic et se dire que c'est de l'endométriose dans les poumons. Ça peut toucher le foie, le diaphragme. J'ai déjà lu un article de l'endométriose sur le cœur. Il y a énormément de choses. Ça peut aller partout et ça peut se développer partout. C'est encore plus difficile à diagnostiquer le fait que ça ne soit pas ciblé sur les organes reproducteurs.
Donc vous m'avez parlé de deux types d'endométriose.
Voilà.
Est-ce qu'il y en existe d'autres ?
Je pense pas. Après, on parle d'adhérence, de lésions superficielles, de lésions profondes. Mais là, ce sont les emplacements. L'endométriose provoque des douleurs et ça peut être aussi bien une femme très peu atteinte peut souffrir le martyre parce que selon les localisations, elle va être pliée en deux de douleurs tous les mois. Et une femme qui va en avoir avec de nombreuses localisations, va peut-être ne pas beaucoup souffrir et s'en rendre compte à un examen qui va être un examen, on va dire, de routine. Il n'y a pas de règle dans cette maladie. Elle est du coup d'autant plus difficile à expliquer. Il n'y a pas de relation de nombre d'atteintes, puissance de la douleur.
Est-ce qu'une femme peut s'en rendre compte très tard, par exemple au moment où elle est enceinte?
Alors normalement, le fait d'être enceinte, le fait du coup les hormones de la grossesse vont faire que comme il n'y a plus de règles, vont un petit peu apaiser l'endométriose, sans la faire disparaître bien sûr. C'est pas lié directement, il n'y a pas un moment précis où on peut la diagnostiquer plus facilement.
En tout cas, il n'existe pas vraiment de soins. Vous avez été opérée, donc c'est possible d'opérer, mais pas toutes sont opérables peut-être.
Alors, je pense que ça, c'est vraiment un travail de questionnement avec le chirurgien ou le gynéco pour savoir quelle est la place qu'on donne à la chirurgie, parce que la chirurgie aide bien pour justement essayer d'avoir un enfant très rapidement après. Ça peut aussi aider. Dans mon cas, c'était les traitements hormonaux qui n'étaient pas efficaces du tout.
Vous avez aussi donc été sous anti-inflammatoire pendant de longs mois pour traiter la douleur.
Pour traiter la douleur, oui, quasi quotidiennement.
Et ça peut avoir des conséquences aussi
Sur la maladie elle-même, non. Mais c'est le seul moyen, malheureusement. Et encore, je m'estime chanceuse parce que voilà, j'ai pris des anti-inflammatoires. Quand les douleurs sont très très fortes, il y a beaucoup de femmes qui sont obligées de prendre des antidouleurs qui sont beaucoup plus forts, de la morphine, pour essayer de calmer. Et il n'y a rien d'autre qui peut les soulager d'ailleurs.
On va voir que ça peut avoir évidemment des répercussions au niveau du couple, puisque bien sûr, une femme qui se plaint tout le temps qu'elle a mal pendant les rapports, ou qu'elle est toujours fatiguée, ou qu'elle ne peut pas faire de sport, ça peut excéder le compagnon ou le mari.
Oui.
C'est déjà un combat en soi pour la femme qui est atteinte. Et si en plus elle n'a pas le soutien du compagnon, on se sent seul.
Tout à fait, oui. Je pense que, si on est avec quelqu'un qui n'a pas envie d'essayer de comprendre ou qui n'est pas prêt à affronter ce combat avec la femme qui est atteinte d'endométriose, je pense que c'est très compliqué. Parce que oui, il y a une fatigue, c'est une fatigue chronique, le fait d'avoir des inflammations en permanence dans le corps font que, de toute façon, l'organisme est fatigué. Donc on va pas être bien, pas envie forcément de sortir, pas envie de faire du sport, pas envie de voir du monde, pas envie de faire des soirées. Et puis quand les douleurs sont très douloureuses, c'est moins il y en a et mieux c'est. Et je pense que pour un homme, ça doit forcément être très compliqué à gérer au quotidien aussi. Et que dans ces cas-là... il vaut mieux être vraiment bien entouré et avoir aussi des possibilités d'en parler avec d'autres qui d'autres femmes atteintes pour se libérer un peu de tout ça, parce que c'est hyper culpabilisant quand on le vit tous les jours et quand c'est pas compris, alors d'autant plus quand le diagnostic est pas encore posé, et puis une fois qu'il est posé, on va dire que c'est important aussi de joindre le compagnon, le partenaire aux rendez-vous médicaux pour que le compagnon puisse aussi avoir à poser des questions aux chirurgiens, puisse s'impliquer. Finalement, c'est un combat qui, quand on est en couple, se fait à deux, forcément.
Cette maladie, donc l'endométriose, une atteinte à la femme, vraiment, puisque la femme, a priori, est faite pour faire des enfants, pour porter les enfants. Donc c'est un vrai combat. Pour vous, actuellement, vous êtes très jeune, 29 ans, c'est quand même quelque chose qui vous est tombé dessus, à la fois soulageant puisque vous avez pu mettre un nom et vous avez pu vous rendre compte que vous n'étiez pas folle et que vous aviez vraiment mal et qu'il y avait de bonnes raisons d'avoir mal. Aujourd'hui, c'est un vrai combat pour vous. Vous avez envie d'aider aussi à votre tour, parce qu'on se sent seul quand on a cette maladie.
Oui.
Vous avez envie de faire des conférences, vous avez envie d'être en contact, peut-être d'apporter votre une part de réconfort en laissant la parole aux autres.
Oui, c'est vraiment une envie, un désir profond, mais parce que ça m'aide aussi, moi, à l'accepter. Parce qu'il faut, après, se dire...
C'est un exutoire.
J'accepte d'être malade, oui. Ça fait partie de moi et ça fera de toute façon partie de moi. Et je ne peux, pour le moment, on ne m'apporte aucune autre solution. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut que j'accepte. Et en acceptant, j'ai envie d'aider aussi. Parce que c'est vrai qu'au moment où le mot a été dit, où le diagnostic a été posé, j'aurais tellement aimé avoir quelqu'un qui me prenne par la main et qui me dise « je connais, je sais, je vais t'expliquer, on va en parler, on va trouver les bonnes adresses, tu vas tout comprendre ». Et c'est vrai que le fait du coup d'avoir fait ces recherches-là seule et d'avoir compris petit à petit, mais vraiment petit à petit, l'ampleur, ce que ça représentait, ce que ça allait engendrer, les angoisses que ça a provoqué du coup... Maintenant, j'aimerais pouvoir faire ça aussi pour les autres. Et j'ai été moi-même aidée, même si ça a été un petit peu après le diagnostic, par, comme je le disais, le mouvement Liliage contre l'endométriose. Ce groupe de parole, j'y ai trouvé tellement de force pour avoir envie de me battre, pour avoir envie de combattre. Et puis pour me dire aussi qu'on était des sacrées bonnes femmes quand même, parce qu'on est un peu des guerrières de la vie aussi, parce qu'on se bat au quotidien et on laisse rien paraître la plupart du temps et on essaye de rester souriante, de rester agréable, de rester à l'écoute des autres quand soi-même on a l'impression d'être meurtri dans ses chairs et d'avoir mal en permanence et de s'interdire un petit peu aussi de le dire, parce que oui, bah, ça peut être saoulant d'entendre quelqu'un qui se plaint en permanence. J'aimerais pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice pour faire connaître, pour faire reconnaître cette maladie et que, voilà, espérer aussi pour les générations futures qu'elles vivent pas les mêmes galères que ce que moi j'ai pu vivre avant d'arriver à avoir enfin le diagnostic et la prise en charge derrière qui va avec. Voilà, c'est vraiment une envie maintenant de pouvoir faire connaître.
On va rappeler le mouvement Liliache. En tout cas, vous allez être présente certainement à Paris.
Très, très certainement. Oui. Les billets sont pris. Voilà.
Le 13 mars, c'est jeudi prochain.
C'est jeudi prochain, oui.
Et c'est une journée mondiale.
Journée mondiale.
Avec un regroupement à Paris de...
De femmes atteintes d'endométriose, mais aussi... de leur entourage qui les soutient.
Le but, ça va être quoi ? Ça va être des conférences ?
Ça va être une marche silencieuse.
Une marche silencieuse.
Mais avec quand même un petit peu de musique pour nous accompagner, pour nous motiver aussi. On espère plusieurs choses, bien sûr. Déjà, c'est d'alerter un petit peu la conscience publique que cette maladie existe. Ne serait-ce que ça, de dire, voilà, ça existe, il s'agit de l'endométriose. Et de dire, voilà, on n'a plus le droit maintenant de dire c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Non, ce n'est pas normal. On espère aussi que grâce à la médiatisation de tout ça, et que les gens en parlent entre eux, que les médecins soient mieux formés aussi. Parce que, effectivement, ça peut être diagnostiqué avec un questionnaire très précis aux patientes sur les douleurs, sur ce qu'elles ressentent. Il faut que les médecins soient mieux formés, c'est aussi espérer plus de spécialistes, parce qu'il y en a en France, pour parler voilà, de la France, il y a des spécialistes, mais encore trop peu, et c'est difficile aussi de trouver leur adresse. C'est pas forcément évident, ça serait bien de pouvoir les référencer plus facilement. Donc pour toutes ces choses, pour espérer aussi une meilleure prise en charge administrative, l'endométriose n'est pas une maladie qui est reconnue par la sécurité sociale comme une maladie invalidante. Quand on sait que c'est une maladie incurable et qu'elle fait souffrir tous les mois, c'est à se poser la question de où est-ce qu'on a raté le truc ? Là aussi, il y a des incohérences. Et donc voilà, on va se rassembler et ensemble voilà, marcher à Paris le 13 mars pour tout ça. Pour se soutenir.
Première, ce sera
la première marche mondiale. Plus de 40 pays vont l'organiser aussi ce même jour. Parce que le problème, il est là aussi, que toutes les femmes atteintes d'endométriose, où qu'on soit sur le globe, vivent exactement la même chose et sont confrontées au même problème. Au diagnostic tardif, au fait que les médecins soient connaissent peu ou mal la maladie. Et du coup, qu'on ne leur propose pas de les soulager correctement ou qu'on ne leur propose pas la chirurgie au moment où il le faudrait. Parce que voilà, on patauge un peu encore dedans et les médecins sont un peu surpassés aussi par ce problème-là de l'endométriose.
Stéphanie Carreras, une vraie mère courage, jeune femme, mais totalement militante depuis que vous avez découvert cette maladie. Et malheureusement, le côté positif, c'est que vous allez aider à votre tour des jeunes femmes qui peuvent être dans la détresse et incomprises. Vous serez donc présente à cette marche. En tout cas, que ce soit mieux connu et mieux compris aussi par les médecins, puisque apparemment, c'est encore inconnu des médecins.
Oui. Il y a encore beaucoup de travail. La marche de jeudi prochain, c'est pas vraiment un aboutissement, c'est le point de départ. Ça va être à partir du 13 mars, parce que ça va me donner énormément d'énergie. Je sais que à chaque occasion que j'aurai d'expliquer ce qu'est l'endométriose, je le ferai.
Est-ce qu'il y a encore un message ou quelque chose qu'on a oublié que vous aimeriez dire?
Que jeudi prochain, le 13 mars, il faut qu'on soit le plus nombreux possible. On a besoin de tout le monde, parce que voilà, on est 180 millions actuellement à être atteints d'endométriose, et malgré tout, bah, apparemment, c'est pas assez, puisque on a l'impression que rien n'est fait, en tout cas pour nous aider à une meilleure prise en charge, à être diagnostiqués plus rapidement et à moins souffrir au quotidien. Donc on a besoin d'un maximum de personnes
voilà,
pour marcher.
C'est-à-dire que qu'on soit atteinte ou pas, on peut aussi manifester
pour soutenir
les femmes. Voilà. Stéphanie, merci pour ce courage de témoigner et puis bon courage pour la suite. Je dis d'avance que cette émission sera mise en ligne sur notre site Fréquence Mistral dans notre émission spéciale sur l'endométriose très très prochainement. Merci encore pour
merci.
Ce témoignage.
Merci beaucoup de l'invitation.
Et puis on va se quitter en musique avec un peu de guitare.